Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie Claude Miller.
On reçoit l'ami Cindy Wild, professeure à l'École de services sociaux à l'Université d'Ottawa, qui a été chargée de cours, consultante et conseillère politique, qui est en train de terminer son doctorat donc à l'UQAT, qui a une maîtrise, qui a une expérience dans le système carcéral. Et c'est un peu de ce que vient nous parler son dernier livre, « Émergence insoumise », chez Anénorak, dans la collection Arabe. Quoi, Cindy?
Quoi, Kakina? Merci de m'inviter.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Moi puis Sophie-Claude, on a toutes les deux lu l'émergence insoumise. C'était des moments instructifs, des moments touchants aussi. Tu nous parles en introduction de comment ton identité à Anishinaabe est ressortie pendant la crise d'Oka.
Oui, parce qu'avant ces événements-là, j'ai jamais été confrontée à me poser la question où je me situais, puis encore moins de me rendre compte que c'était problématique. C'est vraiment à partir de ces moments-là que mon identité s'est définie, puis toujours de plus en plus, finalement.
Jeune femme qui allait au cégep, raconte-nous aux auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as voulu venir faire un tour à Abitibi-Winnipegogan?
Oui, bien, ma famille est toute à Picogan. Ouais. Donc, pendant cet été chaud-là, il y avait plusieurs événements où je savais que ma famille était intimidée. Et notamment, devant la réserve à Picogan, il y avait eu un gros feu qui avait été allumé par des autochtones pour leur signifier rester dans votre réserve. Puis, j'étais bien en envers de tout ça. Moi, je suis très proche de ma famille. Puis, j'ai décidé de monter, d'aller les voir, les soutenir. Puis entre Grand Remous et Louvicourt, je me suis fait arrêter 6 fois par la SQ. C'est vraiment la SQ, là.
Oui, c'est encore la SQ qui patrouille, là.
Oui, vraiment. Puis c'était vraiment pour vérification. Donc, j'avais un tempérament assez bouillant, jeune femme, adulte en construction. Et je savais vraiment qu'est-ce qui se tramait. Puis je me disais, non, je les laisserai pas m'avoir, tu sais. Puis je suis vraiment sortie comme avec une désinvolture que je pensais pas être capable. Je leur ai fait un gros sourire, je leur ai dit de prendre leur temps, je leur ai souhaité bonne journée. Mais en dedans de moi, je bouillais, je savais que j'étais en train d'être profilée. Puis c'était en raison de ce que j'avais l'air, parce qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux très longs, noirs. C'était évident pour ceux qui connaissent les Autochtones que j'étais une Première Nation. Donc, ça a commencé à me chicoter assez fort pour me dire comme ça n'a aucun bon sens. Ces gens-là sont supposés nous protéger, tu sais. Fait que là, j'ai comme un peu compris la game qui se tramait dans le sens que ben, c'était eux contre nous, là. C'était vraiment là qu'on était rendus.
Non, puis c'est assez bouleversant, mais malheureusement, on est plusieurs à avoir vécu cette expérience-là d'une façon ou d'une autre.
Encore aujourd'hui.
Oui.
C'est tellement troublant d'entendre mon monde autour de moi me raconter ça. Moi aussi, j'ai eu cette histoire-là. Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis beaucoup, à partir de la crise d'Oka, c'est comme si ça a remis en lumière une espèce de relation pas saine entre les Autochtones puis le peuple québécois à cette époque-là, tu sais. Fait que non, c'est troublant. J'entends, tu sais, je le dis dans mon livre que mon histoire se mêle à celle de bien d'autres, puis c'est malheureusement le cas.
Oui, parce qu'en lisant ton livre, moi, il y avait des choses qui ressemblaient à la réalité que j'ai vécue, même si notre parcours est loin d'être identique. Cindy, dans ton expérience de travail, Alexis le mentionnait plus tôt, tu as travaillé au Service correctionnel Canada. Moi, ce partage-là, là, de ce chapitre-là, m'a touché beaucoup parce que je suis pas la première personne, c'est pas la première fois que j'entends que les leaders étaient peut-être pas au fait, disons, ou avait pas des connaissances culturelles très élargies par rapport à qui nous sommes. Puis aussi, il y a encore le phénomène qui, encore là, il y a des gens qui se auto-déclarent autochtones, qui ont des origines peut-être questionnables, qui occupent des postes au sein des services correctionnels du Canada. Il y a eu ces points de vue-là. que tu as vu là-bas et que tu décris dans tes livres, est-ce que, à quelque part, cette expérience-là t'a amené à vouloir faire mieux avec les Québécois, qu'ils apprennent à faire mieux avec nous? Qu'est-ce que ça a éveillé en toi? Qu'est-ce que ça a fait pour ton parcours personnel et professionnel, bien sûr?
Naïvement, au début de toutes ces initiatives-là qui ont été implantées, je pensais vraiment pouvoir faire une différence positivement parce que je me disais, je suis une Première Nation, puis on est plein qui a envie de travailler pour que ça fonctionne, qu'on ait un meilleur sort dans la vie. Fait que pour moi, je voyais ça super positif, mais je me suis rendu compte justement que c'est un grand système, puis un système qui est fondé vraiment sur l'idéologie coloniale. Donc, ça vient avec toutes les croyances puis les valeurs qui nous ont été imposées. Et c'est de cette façon-là que la hiérarchie est structurée. Donc, je me suis dit, en sensibilisant, on va faire des petits pas, mais ces petits pas-là étaient très, très timides et c'était très long. Moi-même, je m'en suis découragée après 25 ans. J'ai lancé la serviette, comme on dit. Mais je pense que comme société, on aurait dû à ce moment-là faire mieux avec ce qu'on pouvait savoir. Tu sais, c'était les arrivées de l'Internet. Je pense qu'il y avait un manque de volonté de reconnaissance et de connaissance des peuples autochtones. Je le vois vraiment comme ça. Puis, les dernières années, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qui ont provoqué un déclic nécessaire, enfin. Puis là, je pense qu'on avance. Je vois des améliorations dans certaines organisations. C'est sûr que c'est pas parfait partout. Puis le service correctionnel, étant un milieu très rigide, on dirait que ça tarde. T'sais. Mais j'en vois. Je vois de l'amélioration. Je l'ai vu à travers ma thèse. Il y a certains services depuis la commission vient qui ont été implantés, notamment dans les services provinciaux. Fait que c'est encourageant. Mais parallèlement, comme chercheur, j'ai vu aussi à quoi on est confronté. Hein. Il y a encore beaucoup de rigidité dans l'évolution nécessaire de comment adresser la surreprésentation carcérale. Tu sais. On veut adapter les façons de faire. Puis moi, j'ai vraiment comme pensé qu'il faut vraiment revoir au complet le système. Ça ne fonctionne pas.
Tu parles d'aller aussi loin que de faire une loi qui va donner une compétence aux peuples autochtones pour les questions pénales. C'est ambitieux parce que la protection de la jeunesse, ça a déjà été tout un processus d'en arriver là. Mais si on regarde la souveraineté d'un État, puis on regarde d'un point de vue un peu philosophique, à quel point un État, une couronne britannique... on le voit partout dans le monde, quand il est arrivé à quelque part, a laissé des compétences comme plus locales assez colonisées, mais a tout le temps voulu imposer son système pénal. Puis on peut le voir même si on regarde le compromis à quelque part de la loi constitutionnelle de 1867 de laisser le Québec avoir son propre code civil, mais on a quand même imposé le système pénal britannique partout, coast to coast. Est-ce que tu penses que... combien d'années tu penses que ça va prendre avant qu'on accepte l'idée qu'on devrait avoir une décolonisation du système pénal et de reconnaître nos ordres juridiques jusque dans cette façon de faire-là, de punir? Parce qu'on le sait, nos systèmes juridiques souvent sont plus basés sur une vision de retrouver l'harmonie, de faire des réparations, tandis que la base du système colonial britannique, c'est la punition.
Oui, juste là, c'est assez de rentrer un cercle dans un carré, ça fonctionne pas.
Ouais.
Mais à ta question, combien de temps ça va prendre? Il y a une couple d'années, j'aurais dit, c'est sûr, je verrai pas ça de mon vivant. Mais j'ai comme vu des petits miracles les dernières années, fait que j'ai comme espoir. Puis évidemment, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai énormément d'espoir en nos jeunes qui vont s'éduquer. Puis dans le lit, je le dis, à un moment donné, on a comme pris les mêmes armes, hein, l'éducation puis le droit. C'est ça qu'on fait maintenant, on se défend avec les mêmes armes qui nous ont en fait, qui ont essayé de nous assimiler.
Ouais.
Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je le vois autour de moi. T'sais, je suis prof à l'université, fait que je le vois là, ce que ça fait l'éducation auprès des jeunes Premières Nations. Puis je pense que c'est la bonne voie. Donc, avec les petits miracles que j'ai vus, je veux bien penser que je vais le voir de mon vivant. Tu sais, des Eva Ottawa qui décortiquent certains aspects de la loi avec sa langue, et c'est bien expliqué, c'est bien transmis comme enseignement. Fait que ça, on en veut plein, évidemment. Puis plus qu'il va en avoir, plus on va démontrer l'importance, puis se faire comprendre, tu sais, il manque une certaine compréhension entre nous puis les non-autochtones sur plein d'aspects, dont le droit. Fait que moi, j'y crois. Puis aussi que ça fait tellement longtemps qu'on tourne en rond avec le milieu carcéral, tu sais, avouons-le que ça fonctionne pas, puis arrêtons de saupoudrer des petites initiatives ici et là, tu sais, provoquons un vrai changement. Et je pense que ça passe vraiment par regarder ça sous une lunette autochtones, tu sais, selon nos visions, selon nos valeurs, justement arrêter de rentrer comme la réparation dans le punitif, tu sais,
Ouais,
c'est contre-productif.
il y a des mesures de rechange dans le système, dans le code criminel, mais c'est limité à certains crimes. Puis encore là, c'est pas toutes les provinces. Comme on le voit, entre autres, les crimes à caractère sexuel peuvent être traités par des cercles de justice autochtones au Manitoba, par exemple, mais on les a exclus ici au Québec parce qu'il y a une certaine délégation de l'administration de la justice aux provinces. Est-ce qu'on devrait imposer cette compétence-là à nos Premières Nations comme la loi C-92 l'a fait?
Mais des fois, tu sais, je me dis, je sais pas là, c'est pas empirique ce que je vais dire là, puis c'est peut-être pas digne de quelqu'un qui fait de la recherche, mais je trouve qu'au Québec, on a beaucoup de résistance, toujours supplémentaire à plein de trucs. Tu sais, tu viens de dire une histoire comme quoi quand on traite la délinquance sexuelle différemment au Manitoba, mais je le voyais même à travers une organisation qui est fédérale comme le service correctionnel au Québec, on avait toujours des pratiques différentes. Il y avait toujours une certaine ouverture dans l'Ouest et ici, ça tardait tout le temps. Je m'explique mal pourquoi, bien honnêtement, mais c'était quoi la question
Ah
déjà?
ben, la question, c'est est-ce qu'on devrait imposer, tu sais, comme la loi C-92 qui
Ah oui.
concerne la protection de la jeunesse, elle impose une façon de faire, elle vient pas de... Ben, en déléguant encore des pouvoirs du fédéral. Là, le pouvoir pénal, le pouvoir criminel, c'est une compétence fédérale. Est-ce que le gouvernement fédéral, le Parlement devrait prendre une loi, selon toi, disant que on délègue le pouvoir en matière pénale et criminelle des Autochtones envers les communautés autochtones?
Ah, c'est sûr que envisager ça comme ça, on va avoir un paquet de résistances. Mais oui, moi je pense comme en tout cas, pour l'instant, c'est le potentiel que je vois, c'est vraiment de faire ça comme la C-92. Tu sais, c'est aux communautés de décider. C'est peut-être pas toutes les nations qui vont vouloir embarquer là-dedans, qui ont les ressources pour le faire. Il y a toute l'histoire des ressources aussi qu'il faut négocier avec tout ça. Donc, mais je suis certaine qu'il y a certaines Premières Nations qui sont prêtes à aller vers ce genre d'alternative-là. Puis, pourquoi pas l'explorer? On est au bon momentum. Puis, on le voit avec la loi à Abidjan, la C-92, la seule ici au Québec, mais plus de cas judiciarisés en ce moment depuis qu'ils ont pris en main leur propre service. Ça parle vraiment. Est-ce que c'est devenu une meilleure société? C'est pas ça que je dis, mais ils ont leur propre façon de faire, puis eux, ils ont mis de l'avant la préservation de la famille, l'intérêt de l'enfant et de la culture. Et c'est là, comme tu sais, comme quand on regarde les paradigmes de base, là, c'est quoi la priorité? Fait qu'il faudrait qu'on regarde au niveau carcéral, c'est quoi les priorités des Premières Nations? C'est certainement pas le punitif. Parce que pour beaucoup de nations, dont les Inuits, ça fait aucun sens d'être incarcéré. Assumer sa responsabilité, c'est impossible quand t'es incarcéré. Donc, faut aller voir comment, tu sais, on les avait, nos systèmes de régulation, là, avant l'arrivée des colons. Donc, c'est ça. Je pense à retourner un peu à nos structures, et nos valeurs.
Puis moi, ce qui me préoccupe aussi beaucoup, c'est que c'est vraiment décrié, pas juste toi dans ton livre, mais par plusieurs autres personnes qui ont travaillé dans le milieu carcéral, que justement, il y a beaucoup de gens avec des origines questionnables, de façon diplomate, là, qui disent métis ou que finalement, ils deviennent algonquins quand ils sont en service carcéral pour obtenir certains services traditionnels qu'ils voient comme peut-être comme des privilèges.
Ou certains postes,
Selon...
comme les postes d'aînés,
Oui, exactement. Oui, ça,
qui
on
sont très bien énumérés, là,
a... Oui,
soit dit en
ça.
passant.
Oui, souvent, malheureusement, c'est lié avec de l'argent. Hein, les... c'est pas juste vouloir reconnecter pour reconnecter. Il y a des raisons financières derrière ça. À travers ton livre « Émergence insoumise », Cindy, tu nous parles d'événements qui sont peut-être parfois durs, quand on parle bien sûr des femmes autochtones disparues, assassinées. On parle un peu de Joyce. Puis j'apprécie même que tu donnes un petit avertissement avant qu'on tombe dans les sujets plus lourds aussi dans ton livre. Mais vers la fin, tu dis que c'est... En fait, même la préface, c'est dédié à tes filles. Puis à la fin, je pense que ton livre est aussi empreint d'un grand message d'espoir. Est-ce que c'est essentiel de raconter notre réalité pour bien guérir et bien avancer? Est-ce que c'était un peu ça dans le contexte de pourquoi tu as écrit ce livre-là?
Bien, j'ai saisi l'occasion de partager une situation qu'on parle trop peu. Hein? La surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral au pays, c'est incroyable. C'est une femme sur deux, puis au Québec, une femme sur dix. C'est vraiment tout sauf normal. Et je me suis servi un peu de mes expériences personnelles en analysant pourquoi on nous représente de cette façon-là. Pourquoi, quand une femme autochtone prend la parole dans les médias ou même dans les réseaux sociaux, il y a toujours un recadrage nécessaire fait de ceux qui la lisent, qui sont pas autochtones, évidemment, ou qui sont pas une minorité, par exemple. Fait que, tu sais, je me disais, il y a une réflexion à faire là-dessus, puis je l'ai vécu moi-même, puis mes filles vont sûrement le vivre. Donc, il fallait que je fasse une réflexion, puis en faisant cette réflexion-là, ça m'a amené à regarder mon histoire, mes racines. Puis ce que je voulais qu'on discute, c'est que c'est pas juste du négatif dans la vie des femmes autochtones. Il y a du très beau monde, on a des femmes fortes qui nous ont vraiment frayé un chemin. Fait que c'était un peu cette réflexion-là que je voulais emmener comme, oui, on a une surreprésentation carcérale, mais accrochons-nous à notre histoire, parce qu'il y a des beaux pans de notre histoire. En tout cas, chez nous, les Anishinaabe, ma lignée écrit aussi, c'est beau l'histoire de l'arrivée de tous nos ancêtres à Pikogan. Puis quand j'ai connu ma lignée féminine, si je peux dire comme ça, j'étais tellement fière, je me suis dit, là, j'ai compris bien des affaires, j'ai compris d'où vient ma force finalement, puis ma résilience. Tu sais, je ne me suis pas laissée emporter dans la colère destructive. Je m'en suis servie comme un moteur puis pour avancer. Fait que ça vient de mes ancêtres, ça vient des femmes autour de moi qui ont frayé un chemin. Fait que ça, je trouvais que c'était important de le souligner.
Mmh. Oui, c'est un beau message. Un beau message. Très inspirant.
Qui est là pour aider le combat pour la crédibilité, c'est même le titre d'un de tes chapitres, parce que c'est difficile souvent d'être cru quand on est autochtone, encore plus quand on est une femme autochtone. Je pense que ton livre fait œuvre utile dans le sens à ce que notre voix puisse être entendue, être crue. Hein, on le sait, beaucoup des événements auraient pu être prévenus, comme Joyce Echaquan, si on aurait été cru.
Oui.
Donc, la vérité est importante à dire.
Oui, vraiment.
Absolument. Non, puis, tu sais, je me sers de mon travail de professeur aussi pour décortiquer tout ça. Tu sais, le sens qu'on a donné à la femme Première Nation depuis l'arrivée des colonisateurs, là, c'est tellement flagrant avec les lois, les politiques d'assimilation, avec plein d'événements qui est arrivé au niveau des pandémies, au niveau de la gestion des laissés-passer dans l'Ouest. La femme a toujours été particulièrement ciblée. Fait que c'est pas étonnant aujourd'hui que dans l'imaginaire collectif, il y a des gens qui ont de la misère à avoir une image positive de la femme. Puis je pense que les médias aujourd'hui peuvent nous aider beaucoup à rectifier cette représentation-là de la femme. Mm-hmm. Puis les livres aussi, évidemment. Là, fait que,
Cindy Wild, professeure à l'École de travail social à l'Université d'Ottawa. Doctorante, j'imagine bientôt docteur, c'est un... Kitimigwetch, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton livre, c'est une recommandation qu'on peut
faire. Ça se lit bien ça aussi, c'est un petit format, j'invite tout le monde aussi à le lire.
Ben, Miigwetch!
Miigwetch, c'est
Magician. Bye.